le meilleur moyen pour ne pas devenir dépendant de la technologie, eh ben, c'est d'aller faire autre chose. C'est-à-dire, c'est d'aller faire du sport, d'aller prendre une marche, juste de faire quelque chose avec son corps à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe, mais à l'extérieur, c'est mieux. Et on va vers les beaux jours, donc il faut en profiter. On a des très belles forêts au Québec, on a des très belles rivières, profitez-en. Et ça a un double avantage.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. C'est un sujet d'actualité qu'on aborde dans cet épisode du balado nommé « Santé sans rendez-vous » en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université Laval, la cyberdépendance. On dirait qu'on connaît le terme sans nécessairement le connaître et vous allez vous en rendre compte dans les prochaines minutes avec nos deux intervenants aujourd'hui, à commencer par Élisabeth Beaunoyer, qui est étudiante au doctorat en santé communautaire. Bonjour Élisabeth.
Bonjour Joannie.
Et Mathieu Guiton, qui est professeur titulaire à la Faculté de médecine, chercheur au Centre de recherche Cerveau et éditeur en chef de Computers in Human Behavior. C'est une revue scientifique prestigieuse au niveau mondial dans le domaine de la cyberpsychologie. Mathieu, enchanté.
Bonjour.
La cyberdépendance, c'est un sujet dont on va faire état, oui, dans les prochaines minutes, mais à la base, on a toujours une première et une dernière question, en fait, qu'on pose à tous nos intervenants. La première étant, pourquoi avez-vous choisi de vous diriger dans cette spécialité-là?
Ben, en fait, j'ai toujours été intéressé par la perception et comment on interagit avec le monde. Et quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai travaillé sur les systèmes sensoriels, les organes des sens. Et au début des années 2000, la réalité virtuelle est devenue quelque chose d'intéressant et je me suis dit, c'est un outil qui pourrait me permettre d'étudier la perception indépendamment du corps, donc d'étudier la perception sans la biologie de la perception. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux espaces virtuels et au comportement humain dans ces espaces, donc comment on interagit au travers et dans les espaces numériques.
Saviez-vous qu'une vingtaine d'années plus tard, ce serait aussi gros dans nos vies?
En fait, si on lit les auteurs de science-fiction, on pouvait le prédire et je les lis beaucoup, donc j'espérais que ça allait devenir intéressant, oui.
Et Élisabeth?
Ben moi, en fait, j'ai pas une anecdote en particulier. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la cyberpsychologie puis à la promotion de la santé aussi de façon plus générale, c'est tout un ensemble de facteurs qui part aussi de mon intérêt des comportements humains et d'une réalisation que au 21e siècle, on vit avec la technologie. C'est pas juste le monde physique, le monde virtuel, c'est vraiment un monde hybride qui est à l'intersection de ces deux univers-là. Et c'est ça que j'ai eu envie d'étudier dans mon doctorat et dans ma future carrière aussi.
Avec les travaux que vous avez faits, les études que vous êtes en train de faire, je vais vous entendre sur les bons côtés et les mauvais côtés de la technologie. Parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, on a beaucoup plus de mauvais à dire sur les technologies, alors qu'il y a de très, très bons côtés. Et oui, des côtés un petit peu plus néfastes. Chacun votre tour.
Bien, moi, je peux vous parler des bons côtés, en fait, de par ma vision très positive de la technologie puis envers la promotion de la santé aussi. Donc, moi, dans mes travaux, j'essaie de mettre ça en évidence beaucoup. Donc, je m'approprie cet aspect positif en ce moment. Dans le fond, la technologie, ça nous offre des nouveaux moyens d'entrer en contact avec, avec d'autres personnes. Ça peut nous permettre d'augmenter notre sociabilité. Ça vient vraiment révolutionner les possibilités d'interaction. Ça nous offre aussi des nouveaux accès à des ressources, autant sur le plan de l'éducation, des services de soins de santé, etc. Et finalement, en fait, ça peut permettre aussi aux gens de développer leur liberté, de développer une certaine créativité et de s'accomplir personnellement sans toujours avoir besoin de ressources financières, humaines, matérielles de plus.
Oui, tout à fait, Elisabeth a raison. En fait, la technologie, il faut bien garder en tête que c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Donc, comme tout outil, ça peut être bon, ça peut être mauvais. L'énergie nucléaire, ça permet d'avoir de l'énergie en grande quantité, puis ça fait aussi des bombes nucléaires. Donc, tout aspect technologique a des bons côtés, des mauvais côtés. Ce qui est intéressant avec les technologies de la communication, donc Internet, les réseaux sociaux, ainsi de suite, d'abord, c'est que ça nous permet de rester en contact tout en n'étant pas physiquement proches les uns des autres. Et on l'a vu avec la crise du Covid, c'est en grande partie ce qui nous a aidé à passer au travers. Et surtout, ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que l'homme est par nature un animal social. Donc tous les outils qui permettent d'augmenter nos interactions sociales, de garder contact avec d'autres êtres humains, même si on n'est pas à côté d'eux, c'est positif. Mmh. Et les médias sociaux permettent exactement de faire ça, de voir des gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, d'avoir des interactions sociales beaucoup plus riches, beaucoup plus variées, beaucoup plus intenses. Donc dans ce sens-là, la technologie, c'est positif.
Et dans le côté un petit peu moins positif?
Ben c'est comme toute chose, hein. Oui. Il y a deux faces sur, il y a deux côtés sur une pièce. En fait, l'abondance de biens ne nuit pas, c'est pas tout à fait vrai dans le cas de la technologie. C'est-à-dire que si on considère que la technologie devient une fin en soi, mais là on peut créer des utilisations problématiques de la technologie. Problématiques en quel sens? Dans le sens qu'elles vont avoir des répercussions. Ces utilisations problématiques, sur notre façon d'être tous les jours. Et c'est là qu'on va créer alors, des phénomènes auxquels on va donner beaucoup de noms, mais qu'on appellera aujourd'hui cyberdépendance, mm-hmm. c'est-à-dire des dépendances à la technologie. Mais encore une fois, ce n'est pas une unité unique, en fait. Ce n'est pas une entité unique, la cyberdépendance. Il y a des gens qui parlent de dépendance à la pornographie en ligne, dépendance aux jeux en ligne, dépendance aux médias sociaux. C'est vraiment très multiforme. Et il y a tout un continuum qui va de la dépendance en tant que telle à l'utilisation problématique qui n'est pas nécessairement pathologique.
Donc là, on ne parle pas nécessairement de je passe mon temps libre sur mes médias sociaux pour aller scroller mon Instagram, mon fil d'actualité Facebook. Ce n'est pas ça de la cyberdépendance. Là. Ça va, comme vous le dites, au-delà d'une utilisation très fréquente, ça va au niveau du fonctionnement de la personne au quotidien.
Tout à fait. En fait, si on voulait donner une définition de la cyberdépendance, ce n'est pas une définition qui serait liée à la quantité d'interaction, mais à la qualité d'interaction. C'est-à-dire quand les interactions avec la technologie prennent le pas sur le fonctionnement normal de l'individu. Ça devient une utilisation problématique et ça peut être un signe de cyberdépendance. C'est vraiment ça le mot-clé. Quand les activités en lien avec la technologie prennent le pas sur le fonctionnement normal de l'individu.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec un terme peut-être qu'on connaît davantage, l'alcoolisme ou la dépendance à l'alcool, dans ce sens où je prends un verre de vin, j'aime prendre un verre de vin, mais ça ne fait pas de moi une alcoolique. Est-ce que c'est un bon parallèle à faire?
C'est un parallèle intéressant.
OK.
C'est un parallèle intéressant dans le sens où on peut prendre un verre de vin, oui, et ne pas devenir dépendant. Sauf qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent quand même, c'est que le vin, c'est une addiction, une dépendance, une addiction chimique.
OK.
C'est-à-dire qu'à un moment, si on prend trop de verres de vin, on va devenir dépendant.
Oui.
Parce que physiologiquement, le corps va réagir à l'alcool et une dépendance va se créer, comme pour une drogue. Comme pour n'importe quelle drogue, il va y avoir une dépendance physiologique qui va se créer. Avec les dépendances à la technologie, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de prise de substance. C'est un comportement auquel on devient dépendant. Mais on peut utiliser beaucoup, 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 beaucoup Internet et jamais ne devenir dépendant. Moi, dans mon travail, j'utilise le courriel de manière très, très importante. Trop importante peut-être, mais très importante. Ce n'est pas pour ça que je suis dépendant.
Non.
Je peux m'en passer. Alors que si je consommais beaucoup d'alcool, à un moment, je deviendrais automatiquement dépendant à cause de la physiologie de l'alcool. Donc, c'est un petit peu différent une addiction physique d'une addiction comportementale.
Oui. Est-ce que les gens vont quand même y trouver un exutoire, un peu comme n'importe quelle autre dépendance?
Oui, en fait, c'est un des aspects qu'on va retrouver, qu'on peut identifier des points communs,
oui,
en fait, entre ces différentes dépendances. C'est le plaisir qui est retiré du comportement qu'on adopte. C'est la raison pour laquelle les gens, souvent, vont tomber dans ce cycle de dépendance-là. En fait, c'est ça, c'est qu'on va penser que c'est la seule manière de se retirer du plaisir dans la vie. Donc, c'est ce qui va créer une sorte d'obsession, un sentiment de perte de contrôle aussi, envers sa propre capacité à contrôler sa consommation. Et donc, ça, c'est des points communs qu'on voit là, entre différents types de dépendances. Ce qui est important, par exemple, de souligner, c'est que la cyberdépendance, ce n'est pas quelque chose qui est fortement répandu. Si on regarde les statistiques, c'est moins de 3% de la population,
okay,
qui est touchée par ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont à risque, par,
oui,
contre. Donc, ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Mais donc, il y a différents, comme on disait tout à l'heure, c'est situé sur un continuum. Donc, il y a différents degrés d'atteinte et c'est ça. Donc, vraiment, les atteintes les plus sévères, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Là.
On ne perdra pas de temps, en fait, pour s'en aller vers les facteurs de risque parce que c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui peut, justement, nous mettre à risque de développer cette cyberdépendance?
Peut-être avant d'aborder cette question, je veux juste te faire une dernière remarque sur la comparaison avec l'alcoolisme, parce qu'elle est très intéressante, puis je pense qu'elle va aider les gens à comprendre la cyberdépendance et le cacher, le dédramatiser aussi. L'alcoolisme, la consommation d'alcool, c'est quelque chose qu'on connaît là depuis à peu près 4000 ans, peut-être même 5 ou 6000 ans, ça dépend là, des sources, mais en tous les cas, c'est documenté depuis 4000 ans au moins, alors que les cyberdépendances, c'est documenté depuis moins d'une dizaine d'années. Donc, il faut relativiser les choses. On sait que l'alcoolisme crée de la dépendance et on voit que dans certains cas, qui, comme Elisabeth l'a dit, ne sont pas si nombreux que ça, la consommation de la technologie crée des problèmes de fonctionnement. Est-ce que ce sont des dépendances? Est-ce que ce sont des dépendances graves? Est-ce que ce sont des dépendances qu'on ne pourra pas guérir? On ne le sait pas encore parce qu'on est encore en train de les caractériser. On est encore à l'étape de caractérisation. Donc, il ne faut pas diaboliser les technologies et se dire « Ah, ça crée des dépendances, que vais-je faire, que vais-je faire ?» Non, on est encore à l'étape de caractérisation, de voir quel est le problème. Et une fois qu'on l'aura bien circonscrit, qu'on saura exactement ce qu'il en est, ben, ça sera beaucoup plus facile de le prendre en considération pour les thérapeutes et pour donner l'aide aux gens qu'on aurait éventuellement besoin.
Et puis, je trouve ça intéressant aussi, dans le cadre de ce balado-là, qui s'adresse à une clientèle entre 18 et 35 ans, qu'on puisse parler des adultes aux prises avec une cyberdépendance, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des jeunes, bon, des parents inquiets de la consommation des technologies de leurs jeunes, mais on ne parle pas nécessairement des adultes. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Oui, alors c'est très intéressant justement de parler des adultes parce que l'une des caractéristiques de toute dépendance, mais des cyberdépendances dans ce cas-là, comme l'a dit Elisabeth, c'est la perte de contrôle. Et quand on est un enfant et qu'on développe une dépendance, mettons, aux jeux vidéo, normalement l'adulte peut intervenir, c'est-à-dire qu'on peut enlever la tablette. C'est plus difficile à 14-15 ans qu'à 8 ans, mais normalement l'adulte peut intervenir. Quand on est un jeune adulte, les parents sont plus là pour intervenir. Donc, entre 18 et 35 ans, on est un jeune adulte. 35 ans, on est encore jeune. Donc, on n'a pas ce contrôle externe d'un adulte qui vient nous aider parce qu'on est adulte. Donc là, on peut vraiment être en détresse parce qu'on voit qu'on a un problème, mais on n'est pas capable d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre le contrôle. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on est dans ce type de situation.
Et justement, est-ce que cet âge-là fait partie des facteurs à risque de développer une cyberdépendance?
OK, donc oui, en fait, cet âge est intéressant parce que l'âge jeune adulte, là, 18-25 jusqu'à 35, mais prenons vraiment le début de la vie adulte indépendante, 18-25, c'est un âge qui est critique pour l'établissement de relations sociales qui ont beaucoup de sens. Hein. C'est l'âge où on commence à vivre sans les parents, où les amitiés deviennent beaucoup plus intenses. Et c'est l'âge où on a l'exploration des comportements sexuels, des premières relations qui peuvent durer toute la vie après. Donc, c'est un âge où on a besoin d'avoir des contacts sociaux. On en a besoin aussi quand on est petit. Mais là, ce besoin est très important à cet âge-là. Et c'est également un âge où on n'a pas encore nécessairement trouver son identité, trouver sa voie. On se cherche encore, on n'est pas dans la tranche d'âge 35 et plus, où là, normalement, arrivé là, on est censé avoir comme une petite idée de ce qui on est, mais on n'est pas non plus dans la partie de l'adolescence, on est dans une partie qui est entre les deux, où on se construit beaucoup avec et au regard des autres. Donc, c'est un facteur de risque, parce que comme on l'a dit, les espaces virtuels sont des espaces qui encouragent les interactions sociales. Donc, dans ce sens, c'est un facteur de risque, oui, c'est pas le seul, mais ça peut être un facteur de risque parce que l'espace virtuel donne une facilité, notamment les médias sociaux, pour interagir avec les gens. Donc, ça permet de dépasser la timidité ou de dépasser ce genre de choses. Donc, ça peut être un facteur de risque. C'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres.
Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que si on regarde ceux qui ont 18, entre les 18 et 25 ans en ce moment, bien, ont pas mal tous grandi avec Facebook.
C'est vrai.
Parce que Facebook a été créé pratiquement dans les mêmes années qu'eux sont venus au monde. Donc, il y a ce rapport à la technologie qui est lié, fortement lié aux interactions sociales qu'ils ont appris comme étant normal. Puis ça, c'est vrai aussi chez les 25 à 30 ans, puis les 30 à 35 ans, mais dans une différente mesure. Donc, il y a ça aussi qui est à considérer. Il faut repenser un peu la manière dont on conçoit la communication et les interactions sociales et repenser aussi la manière dont on va interpréter les difficultés que les gens vivent par rapport à ça. Aussi, il y a un autre aspect qui est intéressant à mentionner, c'est les comorbidités souvent qu'on voit avec différents autres problèmes de santé mentale. Notamment chez les jeunes adultes, on va souvent entendre des histoires de faible estime de soi. Souvent, les gens vont rapporter qu'ils ont une faible estime de soi, ils vont rapporter des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, des problèmes de sommeil. Donc, souvent, les personnes qui vont être atteintes de cette cyberdépendance si difficile à définir, vont aussi avoir d'autres problématiques de santé. Donc, ça fait un portrait qui est très complexe, finalement, et qui est difficile à saisir rapidement et simplement comme ça.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles technologies, avec le métaverse, un mot qui est à la mode en ce moment, mais en fait qui existait depuis déjà une quinzaine d'années au moins, donc avec cet espace augmenté qui se superpose, qui se surimpose à l'espace réel, les espaces virtuels, les espaces numériques deviennent des espaces de vie. C'est-à-dire qu'on vit dans ces espaces-là. Cependant, ils ne doivent pas devenir des espaces de remplacement. C'est-à-dire que si notre vie est uniquement remplie de sens dans les espaces virtuels, là, on a un risque de développer une dépendance à la technologie parce qu'on va vouloir aller dans ces espaces pour avoir les récompenses en fait, émotionnelles, ainsi de suite, qu'on n'a pas dans la vie réelle. Alors que c'est juste une couche supplémentaire à la vie réelle. Et tout doit interagir ensemble. Si jamais on se déconnecte de la vie réelle pour rester uniquement dans l'espace numérique, mais là, on a un risque d'utilisation problématique de la technologie.
Élisabeth, aviez-vous un petit truc à ajouter? J'ai juste vu un petit bras levé.
J'aurais aimé juste ajouter une petite nuance parce que, tu sais, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des personnes qui vivent ces problèmes-là, mais je pense que c'est important à ce stade-ci de souligner que ça ne relève pas uniquement de la volonté de l'individu. Il y a un rôle aussi de l'entourage, puis peut-être même de la société plus générale envers ces situations-là pour ne pas, en fait, contribuer à fournir d'autres espaces auxquels on peut contribuer socialement. Et donc, ça fait référence autant aux amis, aux parents, aux collègues de travail. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une responsabilité sociale qui est importante à mentionner et que c'est notre rôle à tous de contribuer à enrichir nos espaces de vie autres qu'au sein des mondes virtuels.
Oui, c'est très intéressant comme point. En fait, c'est un point central et c'est un point qui est à la base de beaucoup de problèmes qu'on a avec les nouvelles technologies et pas juste au niveau de la dépendance ou de la santé, de beaucoup de problèmes en général. C'est qu'on a un développement de la technologie qui est très, très, très rapide et en tant que société, on n'a pas encore eu le temps de s'interroger, de réfléchir sur les implications sociétales de ce développement de la technologie. Donc là, on est en train de courir après le lièvre plutôt qu'être devant et voir ce qui se passe. Si on prend l'exemple, par exemple, de la bioéthique, donc la bioéthique est quelque chose qui est très important aussi, on a eu quand même plus de 40 à 50 ans pour discuter de ce qui allait se passer quand on pourrait modifier les gènes humains. Ce qui fait que quand on a eu CRISPR il y a quelques années, on avait déjà une réflexion qui était très avancée sur ça, comme pour les mères porteuses, par exemple. La technologie, la biotechnologie a évolué, mais beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'entre la Seconde Guerre mondiale et maintenant, on a eu 60 ans pour s'interroger sur ça. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la réflexion philosophique, la réflexion sociétale et le débat sociétal se fait en même temps ou un petit peu après que l'évolution technologique arrive. Ce qui fait que la société n'est pas nécessairement adaptée à la technologie qu'elle utilise. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a des utilisations problématiques d'Internet qui ne sont peut-être pas finalement des formes de dépendance, qui sont des utilisations problématiques parce qu'en tant que société, on n'a pas encore tous les codes qui permettraient de faire une utilisation saine, raisonnée et normative des nouvelles technologies.
Je veux m'en aller vers une problématique qu'on a connue en raison de la COVID au cours des deux dernières années. Les gens qu'on a qualifiés de complotistes. Bon, ce sont des gens qui étaient extrêmement connectés sur les médias sociaux, qui faisaient de la propagande, des fois, ben, la plupart du temps, de fausses nouvelles. Est-ce que ces personnes-là, ce sont des cyberdépendants? Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux termes-là ou je suis complètement dans le champ?
Alors, en fait, c'est deux choses complètement différentes.
D'accord, je suis dans le champ.
Non, mais c'est une réflexion intéressante parce que je pense que beaucoup de personnes associent les concepts peut-être ou se disent « Ah, mais toi, tu es complotiste parce que tu es trop sur Internet. » En fait, non. Les théories du complot existent depuis très longtemps. Depuis que les hommes sont des hommes et depuis qu'il y a des rapports de force entre les individus, il y a des complots. Donc, les théories du complot existent depuis très longtemps et les complotistes n'ont pas attendu Internet pour exister. Les théories du complot, c'est des gens qui développent des théories, qui développent des opinions qui sont pas valides d'un point de vue informationnel, mais qui sont légitimes dans une société démocratique. Dans une société démocratique, tout le monde a le droit d'avoir son opinion et c'est au système d'information d'essayer de donner les informations justement nécessaires pour que les gens se forgent une opinion la plus proche possible de la réalité. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on a ce qu'on appelle une caisse de résonance, ce que les anglo-saxons appellent l'echo chamber. En fait, qu'est-ce que c'est la caisse de résonance? Pour prendre une analogie en fait, qui a donné le nom au phénomène, si on a une corde et qu'on la pince, on a une petite vibration qu'on n'entend pas. Si maintenant on met cette corde sur une caisse de métal, on a une guitare ou un violon. C'est-à-dire que la vibration de la corde va être amplifiée et va faire un son. Bon, bah, c'est pareil sur Internet, si on cherche une information, Internet, via les algorithmes, via les réseaux sociaux, ainsi de suite, va nous donner, va nous exposer à plus d'informations de la même nature. Donc, si jamais on a un intérêt sur des théories alternatives comme les théories du complot, eh ben, on va avoir beaucoup, beaucoup d'informations qui vont nous renforcer dans cette idée-là. Mais ce n'est pas Internet qui a créé notre intérêt initial. C'est nous qui avions un intérêt et Internet qui nourrit cet intérêt. Donc, la théorie du complot puis les complotismes, c'est les complotismes, pas les complotistes, c'est-à-dire les formes de complotisme. Oui. C'est bien volontaire ce que je disais, parce qu'il y a différentes formes de complotisme. Donc, les formes de complotisme sont un artefact du fonctionnement normal du débat démocratique. Alors que les dépendances à Internet sont potentiellement des problèmes de vulnérabilité ou de santé mentale et les gens doivent être aidés pour se libérer de la dépendance à la technologie. Donc d'un côté, c'est un problème d'accès à l'information ou de validation de l'information. Ça, c'est pour les théories du complot. Si les gens n'ont pas accès à la bonne information ou ne valident pas l'information comme étant bonne avec des mécanismes suffisants. Et ça, pour faire une petite parenthèse, c'est en grande partie à notre époque lié à la rupture de confiance qu'il y a entre la profession de journalisme et la population. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de mal à croire de nos jours, l'information entre guillemets officielle ou en tous les cas véhiculée par les médias principaux. Et ça crée justement un espace dans le débat démocratique pour des opinions alternatives non nécessairement documentées. Donc d'un côté, on a cet aspect-là. Et de l'autre côté, on a un aspect d'utilisation problématique de la technologie qui va avoir un impact sur le fonctionnement de l'individu et qui potentiellement relève de problèmes de santé mentale qui doit être adressée comme telle, c'est-à-dire avec du support psychologique, du support social et du support sociétal.
Vous parliez tout à l'heure justement du fait d'avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations, mais pas faire la différence entre une fausse nouvelle et une vraie nouvelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus vulnérables justement? Est-ce qu'il y a des inégalités technologiques qui font en sorte que certaines personnes vont être plus à risque de développer la cyberdépendance?
Ben oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le concept d'inégalité numérique, en fait. Les inégalités numériques, ce que ça signifie, en fait, c'est qu'il y a des différences entre les individus et les groupes sociaux par rapport à l'accès aux technologies et la capacité à retirer des bénéfices de l'usage de la technologie. Mm-hmm. Donc, on comprend que ça englobe énormément de choses et ce sont des inégalités, en fait, qui touchent le déterminant de la santé, qui est l'accès aux technologies. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'accès aux technologies va venir influencer l'état de santé de la population. Et là, au niveau des fake news, l'information, tout ça, ce qu'on comprend, ce qu'on retire de toutes ces études-là, de toutes les études qui ont été faites, c'est que plus on va avoir une littératie numérique, donc une facilité à naviguer dans le web, dans les informations et à différencier le vrai du faux ou les sources fiables des sources moins fiables, plus on va retirer des bénéfices sur le plan de notre santé individuelle et plus on va pouvoir aussi contribuer au discours là, global et améliorer la santé des autres aussi. Donc, c'est sûr que les inégalités numériques, c'est un concept qui est très, très large, qui englobe plusieurs choses, Mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est fortement associé à d'autres conditions de vie. Par exemple, on va retrouver des différences au niveau du statut socio-économique, du statut d'immigration aussi. L'âge aussi, c'est souvent un facteur qu'on entend. Donc, on entend dans la pensée populaire que les personnes âgées vont être moins aptes à comprendre qu'il y a des informations qui sont moins véridiques ou qui vont être plus vulnérables aussi à des brèches de cybersécurité au niveau financier. Donc, ça, c'est des exemples qu'on peut illustrer. Donc, ça fait partie de tout un ensemble de facteurs qui vont venir influencer la capacité à faire bon usage d'Internet.
Là, on a parlé des différents facteurs. Oui, Mathieu?
En fait, c'est intéressant et c'est important ce qui vient d'être dit parce que la technologie, c'est comme j'ai dit au départ, c'est un outil. C'est un outil. Et comme chaque outil, il faut apprendre à s'en servir. C'est-à-dire que si je prends un marteau et un clou et que je ne m'en suis jamais servi, je risque d'avoir mal aux doigts. Donc, c'est pareil pour la technologie. La technologie, c'est un outil qui résout en grande partie le problème d'accès à l'information. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à l'information. Par contre, ça ne résout pas le problème de la validation de la qualité de l'information. Et ça, c'est lié notamment au problème de littératie ou de littérisme, les deux termes existent. Donc, savoir comment on est capable d'identifier la fiabilité d'une source d'information. Et ça, ça vient avec l'éducation de la population, avec l'esprit critique, avec beaucoup de choses. Et du fait que l'information devient beaucoup plus facilement accessible, mais que la validation de l'information n'est pas automatique, c'est certain que les espaces virtuels offre un champ très attractif pour les gens qui veulent faire de la propagande ou autre. Mais encore une fois, la propagande n'a pas attendu Internet pour exister. Donc, ce qui se passe, c'est juste qu'on est capable d'aller avec une échelle et une magnitude beaucoup plus importante.
On parle beaucoup des médias sociaux depuis tout à l'heure. Là, je pense que oui, en effet, tout le monde s'y retrouve dans les médias sociaux. Quels sont les autres espaces virtuels desquels on peut dépendre là, quand on parle de cyberdépendance?
Alors, quand on parle de cyberdépendance, là, on parle beaucoup des médias sociaux parce qu'on est beaucoup dans la tranche d'âge 18-35. Oui. Mais bien évidemment, là, quand on parle de cyberdépendance, en général, ce qui vient à l'esprit, c'est plus les enfants qui vont être dépendants des jeux vidéo, oui. La dépendance aux jeux vidéo. On la retrouve aussi dans la tranche d'âge 18-35, c'est aussi facile d'être dépendant. Il y a au moins deux autres formes de dépendance entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr, encore une fois, que ce soit des formes différentes ou que ce soit c'est plus un continuum, mais il y a deux risques ou trois risques qui vont apparaître dans cette tranche d'âge des 18-35 ans. Indépendamment de la dépendance au jeu, on a un risque de dépendance au jeu d'argent en ligne. Et ça, ça arrive très souvent chez les jeunes parce qu'on commence à avoir de l'argent et on a l'habitude de jouer à des jeux vidéo. Mais là, on a des jeux vidéo sur lesquels on peut parier de l'argent. Et là, on voit beaucoup de cas de jeunes personnes, là, de jeunes adultes qui vont avoir des dettes énormes à cause de jeux en ligne. Et là, c'est comme la dépendance à un casino, sauf que c'est beaucoup plus facile d'accéder à son vice. Donc, ça devient beaucoup plus risqué. Il y a une autre forme de dépendance qui est documenté chez les jeunes adultes, c'est la dépendance à la pornographie en ligne. Donc ça peut arriver aussi. Et c'est pour des gens souvent qui ont des problèmes d'estime de soi. Et c'est difficile peut-être de trouver des partenaires. Et là, avec les espaces numériques, les vidéos, ainsi de suite, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile. Et ça donne une satisfaction immédiate qui est facile à avoir, qui ne demande pas d'effort. Donc on peut avoir ce type de dépendance qui arrive. Et le troisième type de dépendance qui crée des risques, c'est un peu plus indirect, mais c'est la dépendance finalement de vivre par procuration dans un espace virtuel dans lequel on s'imagine rencontrer des gens ou ainsi de suite, et dans lequel on se fait manipuler vers des formes de radicalisation. Ça, on l'a vu aussi, donc c'est un risque qui est présent dans cette tranche d'âge, qui dérive un petit peu des risques de dépendance aux médias sociaux, mais pas complètement.
Et de ce que j'entends dire, vous dites qu'on pense qu'il pourrait faire partie d'eux. Est-ce qu'on est en train de faire une distinction entre les 4-5 termes que vous avez mentionnés parce qu'on n'est pas sûr de les mettre tous dans la même problématique, c'est-à-dire la cyberdépendance?
Oui, en fait, si on regarde ce que disent les psychiatres, donc ils sont quand même les experts en santé mentale normalement. Donc si on regarde ce que disent les psychiatres, ils se basent sur un livre qui est la Bible de la psychiatrie, qui est du moins en Amérique du Nord, qui est le DSM. Et la dernière édition du DSM a un seul terme pour toutes ces problématiques-là, qui est utilisation problématique de l'Internet.
Okay.
Problématique Internet Use. Et c'est un fourre-tout dans lequel on peut mettre un peu n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'état de la recherche n'est pas suffisamment avancé pour qu'on dise les choses avec suffisamment de certitude. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, les médias sociaux, ça n'existait pas vraiment. Donc les mondes évoluent. Peut-être qu'avec l'arrivée de mondes augmentés, d'espaces en réalité virtuelle, ainsi de suite, on risque de créer d'autres formes de dépendance. Donc vraiment, c'est l'utilisation problématique de la technologie, puis qui peut prendre différentes formes, mais probablement que ces formes-là, ayant des déterminants communs, auraient des choses communes aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dépendant au jeu d'argent en ligne a probablement une vulnérabilité pour être dépendant au jeu en ligne, tout simplement. Donc les choses sont probablement... quelqu'un qui a une dépendance à la pornographie, il a probablement aussi risque d'avoir une dépendance aux médias sociaux. Parce que s'il a du mal à avoir des relations avec les gens dans la vie réelle, bon, bah, les médias sociaux seront un exutoire autant que la pornographie en ligne. Donc probablement qu'il y a des interconnexions, mais on n'est pas capable de l'affirmer. Parce que c'est une technologie qui existe que depuis un nombre limité d'années.
Là, je me mets à la place des gens qui sont en train d'écouter l'épisode en ce moment et qui se disent « Oh mon Dieu, d'un coup, je suis rendue cyberdépendante, puis c'est peut-être de moi dont on parle présentement. » Quels sont les comportements là, d'une personne qui est en train ou qui a développé de la cyberdépendance?
En fait, il y a plusieurs symptômes, plusieurs signes qu'on peut surveiller. Je vais en nommer 3, dans le fond. Le premier, c'est de savoir si la technologie empiète sur notre vie privée ou nos activités quotidiennes. Donc, à partir du moment où on se prive de faire des activités en dehors de notre utilisation de la technologie, on peut peut-être se poser des questions. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'aller chercher de l'aide pour avoir une recommandation. Si passer du temps sur Internet, comme je disais tout à l'heure, c'est son seul plaisir, c'est le seul plaisir qu'on retire de l'utilisation d'Internet, le seul plaisir qu'on retire vient de l'utilisation d'Internet, ou que ce soit en termes de jeux vidéo, bon, peu importe là, la nature que ça prend, à ce moment-là, ça peut être un autre signe aussi qu'il faut aller voir davantage. Il y a aussi d'autres symptômes plus généraux, comme les problèmes de sommeil, de concentration, de mémoire et d'hygiène de vie. On va dire une hygiène de vie qui n'est pas saine, c'est-à-dire qu'on fait plus de sport, on mange moins bien, on dort peu. Souvent, les psychologues vont rapporter aussi que les personnes qui vivent avec ces problématiques-là vont avoir une hygiène corporelle moindre. Donc ça, c'est un troisième signe. Si vous avez ces symptômes-là, peut-être qu'il faut aller chercher de l'aide. Puis à ce moment-là, il y a plusieurs ressources aussi là, qui existent. En faisant une recherche Google, on va en trouver beaucoup, là, des ressources, notamment l'Université Laval qui offre des services.
En fait, moi, je veux dire que si un auditeur se dit « oh mon Dieu, je suis peut-être en train de développer une cyberdépendance », ben, je trouve que c'est un très bon signe parce que ça veut dire qu'il n'est probablement pas en train d'en développer une. Si on est capable d'avoir suffisamment de recul pour se dire que notre utilisation est problématique, ça veut dire qu'on est capable de la réduire, qu'on est capable de se mettre un contrôle. Si un jeune adulte se dit « oh zut, ça fait pas de sens là », bon ben, on est capable de changer le comportement. Le risque, c'est quand on s'en rend pas compte. C'est quand on ne se pose pas la question. Mais si on se pose la question, c'est qu'en général, on est capable justement de faire quelque chose pour diminuer le comportement. Oui, mais en fait, le risque est vraiment quand on ne s'en rend pas compte. Et là, dans ces cas-là, c'est l'entourage qui doit intervenir. Mais le problème, c'est que les gens qui ont développé une cyberdépendance, souvent, c'est qu'ils se servent de ça pour pallier au manque d'entourage. Donc, c'est un petit peu l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement avec les gens qui sont les plus vulnérables à la cyberdépendance, qui sont ceux qui sont le plus isolés des relations sociales réelles et donc qui sont les plus à risque de ne pas être dépistés comme étant dépendants des technologies.
Et ça peut aller jusqu'où si on va loin, là, la cyberdépendance? Est-ce qu'on... Je ne veux pas nommer ce mot-là, mais est-ce que le suicide fait partie d'un cas extrême de cyberdépendance?
Alors ça, c'est intéressant. En fait, oui, mais encore, c'est des cas extrêmes. Il faut bien voir, il y a très peu de personnes qui sont réellement cyberdépendantes.
3%, hein, comme on dit en début.
Mais les chiffres varient d'une à l'autre, mais c'est jamais énorme. C'est jamais énorme.
Entre et puis, 1 et 3.
Et puis, il y a beaucoup de façons différentes. Il n'y a même pas d'outils universellement reconnu pour la mesurer. Okay. Donc, c'est vraiment au niveau du fonctionnement. Pas nécessairement au suicide, mais au déni des contraintes physiologiques. Donc, ce qu'on a vu, par exemple, dans certains pays asiatiques, c'est qu'on a eu des jeunes adultes qui sont morts en jouant à des jeux vidéo, juste parce qu'ils ne sont pas alimentés pendant plusieurs jours ou qu'on n'a pas bu. On en a eu plusieurs en Corée du Sud, notamment. On en a eu quelques-uns en Chine aussi. En Chine, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour lutter contre ça, au niveau des enfants, justement, il y a quelques mois, c'était, je pense, au mois d'octobre, que le gouvernement chinois a mis une loi qui empêche les enfants de jouer à des jeux vidéo plus de 3 heures par semaine, dont 2 heures le week-end. Donc la Chine, c'est un pays où ils sont capables de faire des lois très, très rigides. Bon, c'est lié à d'autres contraintes qu'on n'a pas nécessairement dans les pays occidentaux. Mais c'est arrivé en Corée du Sud et au Japon et en Chine et à Taïwan qu'on ait des jeunes adultes et jeunes hommes qui meurent parce qu'ils ne se sont pas alimentés pendant une semaine, parce qu'ils jouaient non-stop à un jeu vidéo. Bon, ça a fait la une des médias locaux, mais on s'entend que c'est extrêmement rare. C'est les cas extrêmes, et puis, idéalement, ça n'arrive jamais. Mais bon, c'est arrivé des fois, donc on peut le mentionner. Mais ce n'est pas tellement un risque de suicide qu'on va avoir, c'est un risque de déni des contraintes de la vie réelle. Ce qu'on va avoir, par contre, c'est des gens qui vont perdre leur emploi, par contre. Qui vont se marginaliser parce qu'ils ne vont pas être capables de maintenir les interactions normales qu'ils sont censés maintenir dans leur vie réelle, dans leur vie physique, entre guillemets. Et c'est ça qu'on va voir. Et c'est la définition, finalement, de la dépendance. C'est que l'utilisation des technologies empiète sur le fonctionnement normal de l'individu. Donc, comme il ne peut plus avoir un fonctionnement normal, ben, l'individu se retrouve à être marginalisé. Et donc, ça va risquer de renforcer potentiellement sa dépendance à la technologie, qui est le seul endroit dans lequel il se retrouve à être valorisé.
Et allons vers le positif maintenant. Quelles sont les solutions qui se présentent aux personnes qui souffrent, on va dire souffrir, de cyberdépendance?
En fait, la première solution, puis ça, c'est le cri du cœur, puis c'est valable pour les enfants, mais je le dis en tant que père, je suis père de 3 enfants, mais c'est valable pour des jeunes adultes aussi, c'est valable pour nous tous, c'est aller jouer dehors. C'est-à-dire que le meilleur moyen pour ne pas devenir dépendant de la technologie, eh ben, c'est d'aller faire autre chose. C'est-à-dire, c'est d'aller faire du sport, d'aller prendre une marche, juste de faire quelque chose avec son corps à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe, mais à l'extérieur, c'est mieux. Et on va vers les beaux jours, donc il faut en profiter. On a des très belles forêts au Québec, on a des très belles rivières, profitez-en. C'est ça, c'est de faire quelque chose. Et ça a un double avantage. Le premier avantage, en fait, c'est un triple avantage. Le premier avantage, c'est que ça diminue la dépendance à la technologie. Le deuxième avantage, c'est qu'on vit dans un monde qui est très sédentarisé, surtout avec la Covid où on fait du télétravail. Donc, on vit assis sur une chaise. Et ça, ce n'est pas bon pour le corps. Donc, en tant que professeur d'une faculté de médecine, je dois dire aux gens, luttez contre la sédentarisation, bougez, faites travailler votre corps. Et le troisième avantage, c'est au niveau social. Le fait d'aller rencontrer des gens, d'aller socialiser, d'aller faire du sport avec d'autres personnes, d'aller même dans un bar, d'aller en consommant l'alcool avec modération, bien sûr, d'aller dans un restaurant, d'avoir des actions avec les gens, des interactions avec les gens, ça va renforcer notre réseau social et donc ça va augmenter notre filet de protection contre le risque de tomber dans la dépendance à la technologie, parce qu'on va avoir un filet social à l'extérieur du monde technologique.
Mais je peux comprendre qu'il y aurait plusieurs personnes quand même qui s'interrogent par rapport à ça, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu dans le contexte de la pandémie, on a dû repenser nos rapports sociaux, repenser notre manière de communiquer. Puis là, on se repose nécessairement beaucoup sur ça, même juste pour planifier des rencontres, justement, pour aller dehors. Mais il ne faut pas non plus trop penser à l'utilisation qu'on fait, puis juste s'assurer que l'utilisation qu'on en fait répond à nos besoins et n'est pas excessive et qu'elle cadre vraiment avec la vie qu'on veut avoir. Ceci étant dit, si on a de la difficulté à se gérer par nous-mêmes, on peut s'imposer aussi des périodes de jeu, par exemple, se dire si on trouve qu'on joue trop, parce qu'avec la pandémie, il y en a beaucoup qui se sont réfugiés là-dedans. On peut s'imposer des périodes limitées de jeu, de dire ben aujourd'hui je vais jouer 1 heure en ligne ou je vais passer seulement 1 heure sur tel site, tel espace. Ça, c'est une manière de gérer. On peut demander aussi à des amis de nous aider parce que quand on est un jeune adulte, on n'a pas nécessairement nos parents avec nous, mais on a peut-être des colocs, des amis qui peuvent nous aider aussi à gérer ces périodes limitées. Et aussi, je pense que les amis autour, si jamais vous voyez des personnes qui s'isolent ou qui ne reprennent pas les activités normales, qui ne retournent pas dehors avec la pandémie qui finit par s'alléger un petit peu, ben peut-être que là, à ce moment-là, il y a moyen d'intervenir aussi auprès de nos amis puis de montrer un soutien pour apporter de l'aide à nos proches qui ont peut-être cette difficulté-là à sortir de ce cadre virtuel.
Et est-ce qu'il y a des des thérapeutes qui se sont spécialisés dans la cyberdépendance? J'imagine que oui, même si Mathieu, tout à l'heure, faisait état que ce terme-là est encore en développement depuis moins d'une dizaine d'années.
Oui, le terme est en gestation, mais la problématique est potentiellement réelle. Oui. Donc, il y a beaucoup de spécialistes, en fait, qui s'intéressent à ces problématiques-là, que ce soit des psychothérapeutes, des psychiatres, des médecins de famille même, beaucoup des travailleurs sociaux, beaucoup des psychologues, beaucoup de professionnels de la santé s'intéressent à ça. Et il y a des cliniques spécialisées pour aider les gens qui ont ce type de problème. Heureusement, il n'y en a peut-être pas encore assez et on n'a peut-être pas assez d'outils pour aider ces gens-là. Mais on a quand même beaucoup d'outils et puis il y a quand même des ressources pour ceux qui en auraient besoin.
On est maintenant rendu au moment fatidique, cette fameuse question redoutée de tous les intervenants du balado. Santé sans rendez-vous. Si vous aviez à prendre rendez-vous avec quiconque, une personne fictive, une personne virtuelle, pour rester dans notre, dans notre thématique d'aujourd'hui, morte, vivante, ce serait qui, Élisabeth?
J'ai choisi Marshall McLuhan, qui est un philosophe canadien qui est décédé en 1980. En fait, c'est le père de certaines des théories de la communication qui a repensé la manière dont on conçoit nos interactions sociales et le rôle des médias dans ces interactions-là. Wow. Et c'est aussi celui qui a prédit l'avènement d'Internet 30 ans avant qu'il soit inventé. Donc, moi, si j'avais l'occasion de faire un lunch avec lui, je lui poserais certainement la question « Quelles seraient vos futures prédictions? » Et que pensez-vous des enjeux, en fait, auxquels on fait face maintenant et comment est-ce qu'on pourrait y faire face à l'avenir?
Et Mathieu, de votre côté?
Oui, en fait, moi, ça serait Paracelse. Paracelse, c'est un médecin et alchimiste du 16e siècle. Et en fait, c'était un petit peu un illuminé à son époque. Et il a révolutionné une bonne partie de la médecine parce qu'il allait contre les dogmes établis de l'époque et il a commencé à utiliser des choses qu'on n'utilisait pas comme médicaments, des solutions minérales. Il a commencé à penser à combattre la maladie en modifiant la chimie du corps, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Il a recommandé aux médecins de laver leurs outils avant d'opérer, par exemple. C'était aussi révolutionnaire à l'époque, là, parce que l'Église, à l'époque, disait que nettoyer l'eau et tout ça, c'était mauvais pour la santé. Donc, c'était un petit peu aller contre les idées reçues. Et il pensait hors de la boîte. Et je pense qu'à notre époque, on a besoin de personnes qui pensent hors de la boîte là, pour essayer de répondre aux défis auxquels l'humanité fait face. Si on continue de penser de la même manière que ce qu'on pense à l'heure actuelle, on n'y arrivera pas. Donc, je voudrais lui demander là, justement, comment on fait pour penser complètement hors du dogme établi pour essayer de trouver des solutions et aller de l'avant.
Il est professeur titulaire à la Faculté de médecine, chercheur au Centre de recherche Cerveau. Mathieu Guiton, merci beaucoup.
Merci à vous.
Elle est étudiante au doctorat en santé communautaire, Élisabeth Beaunoyer. Ce fut un plaisir de m'entretenir avec vous. Et c'est ce qui conclut cette première saison du balado Santé sans rendez-vous. Merci d'avoir été à l'écoute. En attendant une prochaine saison, je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir les épisodes précédents de la saison et à nous suivre afin d'avoir les détails les plus à jour sur ce qui est à venir. Bon été!